Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Nos trois experts du jour, donc François Eckhall, bonjour.
Bonjour.
François, vous êtes le fondateur de Fipeco, professeur d'économie à Paris 1. Christian Poyot, bonjour Christian.
Bonjour Emmanuel Lechypre.
Christian, PDG de Micropole, président aussi de la commission Mutations technologiques et impacts sociétaux du MEDEF. Et puis le maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8 Saint-Denis, Gilles Ravot. Messieurs, peut-être un mot sur la nationalisation d'EDF. On se dit, mais finalement, à quoi ça sert? Puisque l'État avait déjà tous les leviers, François Eckhall, quand l'État voulait imposer à EDF tout un tas de restrictions, de participer à l'effort sur le bouclier tarifaire, il pouvait le faire. À quoi ça sert d'être actionnaire à 100% quand on a déjà 84% des actions?
Quand on a 84%, on peut en effet faire ce qu'on veut, mais pas totalement en réalité, parce qu'on peut être accusé par les actionnaires minoritaires d'abus de biens sociaux et de prendre des décisions qui sont contraires à l'intérêt de l'entreprise, et ça peut être pénalement répréhensible. Ce genre de choses. Donc je pense que le but de l'opération là, c'est de se débarrasser des actionnaires minoritaires pour que effectivement l'État puisse prendre des décisions qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de l'entreprise elle-même, qui sont conformes à l'intérêt général, mais pas forcément dans celui de l'entreprise société EDF. Alors ça pose une question plus large d'ailleurs. Quel est l'intérêt en fait de privatisation partielle comme celle d'EDF? Parce que effectivement, si l'État a le contrôle, au moins la majorité d'une entreprise, c'est parce qu'il a quelque part quand même l'intention de faire prendre à cette entreprise des décisions qui ne sont pas celles que prendrait un actionnaire privé. Mais s'il a des actionnaires minoritaires, il est quand même obligé en fait d'agir comme actionnaire lui-même, aussi dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt des actionnaires privés. Donc il y a une contradiction en fait quand on fait une privatisation partielle à 15, 20, 50 ans, etc. Il y a une contradiction structurelle, et c'est vrai que moi je vois pas bien l'intérêt de ces privatisations partielles de 10. Alors si, il y a un intérêt qui est évident pour l'État, c'est de financer cette entreprise sans sortir de l'argent de sa propre poche. Voilà, mais on tombe, il y a un intérêt financier pour l'État immédiat, mais avec ce genre de difficultés, et bon, on voit le résultat là dans le cas d'EDF, ça devenait impossible.
Est-ce que Christian Poyot, finalement, on entérine une situation qui, de fait, était cette situation d'État qui décide pour tout et de tout chez EDF?
Si on essaie de l'analyser vraiment de manière très brute, on se dit que c'était une erreur de la privatisation partielle. Quoi, je veux dire. Enfin, au passage, il y a quand même des petits actionnaires qui ont dû acheter, je crois, à 32 et qui vont être. Enfin, et on va leur rendre 15, 12, enfin, je ne sais pas le montant exact. Quoi. Bon. Je pense qu'il faut se dire que l'énergie est un sujet qui est régalien, finalement, ça revient à ça. C'est-à-dire que c'est tellement vital pour l'ensemble des citoyens eux-mêmes, des entreprises, et puis de la stratégie géopolitique, enfin, etc. L'État ne peut pas, enfin, doit avoir une part prépondérante dans les choix et les orientations.
Mais est-ce que cette privatisation partielle, c'était pas un sujet un peu finalement, je dirais pas presque idéologique, mais qui correspondait à l'ère du temps, de la libéralisation de la fin des années 90, où on disait tout finalement est soluble dans les règles du marché?
Je pense que les auditeurs présupposent que je suis un partisan de l'économie de marché et du libéralisme, bien évidemment, mais il y a des sujets où, enfin, en tout cas, on ne peut pas être 100% privatisé. Il y a des sujets qui sont les sujets d'intérêts nationaux, régaliens, encore une fois, de souveraineté. Et donc, ce qui a été fait à un moment donné, oui, il y avait certainement un certain biais idéologique en disant on va tout faire fonctionner dans le privé. Une large partie des choses doit être faite dans le privé, et puis il y a une autre partie qui effectivement est du domaine certainement du public, déjà parce qu'il y a des visions à très long terme, c'est aussi ça le sujet, on va certainement parler du nucléaire, c'est une vision à 30, 40, 50 ans, enfin, donc on ne peut pas avoir une vision sur le coup qui soit non pas même pas court-termiste ou moyen-termiste. Donc oui, reconnaissons qu'il y a des sujets dans lesquels la privatisation n'est pas la bonne solution et l'État doit garder la main.
Mais avant de donner la parole à Gilles Rabault, François Eckel, l'énergie, par exemple l'électricité, c'est frappant. C'est un sujet dans lequel on n'a jamais réussi à intégrer dans les coûts les investissements futurs. Jamais.
Oui, mais
parce qu'on veut pas faire.
Oui, parce que le, bah oui, malgré cette présence d'actionnaires privés qui ont permis de financer en partie EDF, le financement d'EDF n'a jamais été suffisant, en effet, pour qu'il provisionne dans ses comptes l'intégralité de ses coûts futurs. Après, EDF aussi a fait beaucoup d'erreurs. Voilà, on peut s'interroger beaucoup sur la gestion d'EDF.
Mais alors, Gilles Rabault, est-ce que il y a des secteurs comme ça dont il faut reconnaître qu'ils doivent échapper finalement aux règles traditionnelles de la concurrence et de l'économie de marché?
Mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur EDF. Écoutez, là vraiment, je suis déjà ma journée déjà réussie parce que je suis très content d'avoir entendu Christian Poyoux me donner raison d'avoir fait campagne pour le non au référendum européen de 2005 parce que c'est exactement ce qu'on disait. Donc merci beaucoup.
Exactement ce que j'ai dit.
Oui, non, je sais. C'est une petite blague.
C'était quoi la réponse? Pourquoi par rapport au référendum de 2005?
Parce que le fait que la Constitution de l'Union européenne entérinait le principe absolument universel du marché et nous on expliquait que bien évidemment, ça n'est pas un bon principe de fonctionnement pour les sociétés, et vous le dites vous-même, effectivement, l'énergie, c'est régalien.
C'est pas ce qu'on est en train de dire, Gilles. On est en train de dire que, dans la grande majorité des cas, c'est ce qui fonctionne le mieux, et qu'il y a quelques exceptions, alors que vous vouliez en faire une règle générale.
Non,
on va pas se laisser berner.
Bon, c'était ma petite provocation pour réveiller les auditeurs. Deuxième point, qui est quand même lié au premier, c'est qu'on a quand même étendu, donc je note hein, quand même votre terme de régalien, qui est quand même un terme qui a du sens. Et je rappelle qu'effectivement, une des grandes limites de la nationalisation d'EDF, c'est justement le très mauvais marché européen de l'électricité, dont je vous rappelle que Bruno Le Maire a dit qu'il était absurde. Donc, c'est pas parce que EDF est nationalisé que l'État fait ce qu'il veut. Et le troisième point que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, entre EDF et l'État, et là, je pense qu'on est très mal outillés, nous, la plupart des économistes, pour penser ça, on a une relation très compliquée. C'est-à-dire que on a à la fois, effectivement, l'État qui récemment a imposé des choses qui, à mon avis, il n'aurait pas dû imposer à EDF. Enfin, on pourra y revenir, parce qu'en tout cas, c'est un coût extrêmement élevé pour maintenir de façon artificielle un bas prix de l'énergie pour les Français. Mais on sait aussi qu'il y a une capture de l'État par EDF, hein, qui est largement documentée depuis des décennies, avec notamment mes amis polytechniciens, qui sont bien plus que les énarques que les Français aiment détester, les gens qui décident de beaucoup de choses dans notre pays, qui ont mis en place... Non, mais Manuel, je me permets quand même de terminer le raisonnement, qui ont mis en place un énorme plan nucléaire avec des irréversibilités qui sont majeures. Et effectivement, en particulier, vous l'avez dit, on a complètement...
On va aller plus loin. C'est-à-dire que EDF, c'est quand même le produit absolument improbable, la conjonction des intérêts de deux grands corps français qui sont d'un côté les grands corps d'ingénieurs et de l'autre côté les syndicats. Et là, c'est pour ça qu'on arrive à cette entreprise.
À ce monstre.
C'est vous qui le dites.
Ouais, moi, je suis plus à ça près. Et notamment, effectivement, il y a eu cette sous-estimation colossale du coût du démantèlement. Hein, ouais. Et là, on parle effectivement de peut-être, je sais pas, de centaines de milliards, finalement, personne ne sait. Et ça, c'est quand même dingue que voilà. Et je pense que c'est une des raisons de la nationalisation, c'est que normalement, avec une nationalisation à 100%, vous pouvez espérer que vous avez éventuellement une baisse hein, des coûts d'emprunt sur les marchés de l'avenir, parce que vous avez la signature publique.
Juste pour prolonger, est-ce qu'on peut considérer, puisqu'on dit qu'il y a des industries qui doivent échapper à ces règles-là, est-ce que, plus généralement, d'autres grandes industries de réseau qui demandent des infrastructures absolument colossales, je pense au transport ferroviaire par exemple, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui doivent finalement relever du secteur public,
Christian Poyoux ? Alors, c'est dur de faire une réponse ex abrupto comme ça. Je pense qu'il y a deux, certainement plusieurs critères à prendre. Je parle en réfléchissant. Il y en a un qui est la durée, encore une fois, des investissements sur le nucléaire. Je pense qu'on est sur les sujets les plus longs. Vous voyez ce que je veux dire quand on parle de 50 ou 60 ans. Bon, une infrastructure, comment dire, ferroviaire, elle dure pas quand même 60 ans. Enfin, elle dure 60 ans, mais elle va évoluer fortement entre ça. Et puis après, est-ce que c'est des sujets dans lesquels on est dans une phase, c'est une concurrence internationale ou géopolitique? On va pas avoir de concurrence des Chinois qui vont venir installer la ligne entre Paris et puis Castelnaudary, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a aussi une notion à prendre en ligne de compte. L'énergie, on est sur un sujet qui, encore une fois, est en vision très longue, notamment là-dessus, et puis dans lequel on a une concurrence, enfin, en tout cas, on est face à des enjeux qui nous dépassent au point de vue européen. Maintenant, juste une parenthèse, je voudrais quand même qu'on arrête de tirer à fond sur EDF. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mal faites ? Oui, enfin, on ne peut que les regretter. Maintenant, la France bénéficie d'un parc nucléaire aujourd'hui qui est unique, qui a été une très, très grande réussite dans les années 60 et 70, grâce aux polytechniciens. Voilà, bon, je ne suis pas polytechnicien, donc je suis tranquille sur le sujet, je ne défends aucun intérêt particulier. Donc reconnaissons quand même qu'aujourd'hui on est très content d'avoir ce parc nucléaire, d'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé simplement ? Encore une fois, on refuse de dire aux Français quel est le vrai coût de l'énergie. Donc on tire vers le bas systématiquement, c'est pas cher, c'est pas cher. Donc le prix de l'énergie en France n'est pas au prix où il devrait être, d'accord ? Parce qu'on fait de l'anesthésie et on en parlera certainement sur la notion de pouvoir d'achat. Et puis deuxièmement, on n'a pas voulu poursuivre l'investissement. Donc effectivement aujourd'hui le parc n'a pas été suffisamment maintenu parce que ça coûtait de l'argent, donc ça s'est doucement corrodé, puis on a négligé de dire, bah ok, un parc, au bout de 50 ans, ça se rénove, mais pourquoi ? C'est plutôt des décisions politiques que des décisions d'EDF en tant que telles. Donc EDF n'est pas parfaite, mais arrêtons de tirer sur cette société.
François Eickhall, notre spécialiste des finances publiques, sur cette idée de secteur qui devrait échapper, notamment compte tenu de l'ampleur des infrastructures nécessaires, peut-être aux règles pures et simples du marché et de la concurrence. Et à ce moment-là, si c'est à l'État d'assumer ce rôle, pourquoi effectivement, dans tout un tas de secteurs, l'État a arrêté d'investir ? C'est vrai pour le nucléaire, mais encore une fois, c'est vrai aussi pour le ferroviaire.
Je crois qu'il faut distinguer, il est très important à la fois juridiquement et économiquement, de distinguer deux choses. La propriété public ou privé des entreprises, ouais, c'est un sujet, et le fonctionnement du marché, voilà, concurrentiel ou monopolistique, c'est un autre sujet. On a parlé des traités européens. Les traités européens sont totalement neutres sur la propriété privée ou publique des entreprises.
Tout à fait.
Vous pouvez nationaliser en Europe n'importe quelle entreprise, la Commission européenne ne dira jamais rien, c'est pas son sujet. En revanche, les traités européens, bah parce que fondamentalement, ils sont font le principe de base en Europe, c'est la libre circulation des biens, des services, etc. Il est vrai qu'ils sont fondamentalement, je dirais, portent sur des marchés concurrentiels. Mais on reconnaît quand même en Europe, dans les traités européens, enfin dans la législation européenne, qu'il y a des activités qui ne peuvent pas fonctionner sous forme concurrentielle. C'est notamment le cas pour ce qui est de l'électricité, du transport et de la distribution d'électricité. Donc aujourd'hui, le transport et la distribution d'électricité, c'est des monopoles. En revanche, la production d'électricité, en effet, elle est concurrentielle. Et ça va rien changer. C'est-à-dire que même si on nationalise à 100%, voilà, si l'État à 100% d'EDF, il reste que pour produire de l'électricité et vendre de l'électricité, EDF continuera à être en concurrence avec des fournisseurs privés, avec des producteurs situés dans d'autres pays, parce que le marché de l'électricité, il est intégré et on peut consommer en France de l'électricité produite en Allemagne, en Espagne, avec tous les pays qui sont interconnectés, dans lesquels il y a une interconnexion avec la France. Donc il y a vraiment deux sujets, enfin il faut bien faire attention, il y a deux sujets totalement différents, propriété privée ou publique, ou fonctionnement en concurrence et en monopole.
Mais sauf qu'une des idées de derrière la privatisation d'EDF, c'était aussi cette idée de séparation, justement. Il y avait d'un côté, comme il y a eu sur le ferroviaire, c'est-à-dire en gros, d'un côté, vous avez les infrastructures de transport, vous avez les infrastructures de production, et effectivement, vous introduisez de la concurrence à différents niveaux. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, Christian Poyot, sur il va bien falloir qu'on accepte de dire la vérité finalement sur le vrai coût de l'énergie. Et ça, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de dormez braves gens qui s'installent en France, notamment à travers la loi pouvoir d'achat, où là finalement on a toujours tous les boucliers, les dispositifs, tout ça qui va nous mener jusqu'à la fin de l'année. La question c'est qu'est-ce qui se passe après ? On va après ?
Moi, je trouve ce qui est dangereux, je pense qu'il faut utiliser ce terme-là, c'est de dire l'État peut tout. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe dans le monde, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que citoyens, en tant que pays...
C'est l'État qui assume tous les risques.
C'est l'État qui assume tout. Rassurez-vous, tout va bien. Bon. Et ça, c'est dangereux, parce que de toute façon, l'État, c'est nous. C'est les contribuables versus le citoyen. Il y a une confusion, je pense, des genres. Et effectivement, je trouve qu'en France, on a un discours là-dessus, ça manque de vérité. Alors c'est difficile à dire, bien sûr, parce que ça aboutit à quoi ? Ça aboutit à dire qu'il faut, il va faire des efforts, collectivement, tous ensemble. Alors, oui, bien sûr, c'est le rôle de la collectivité de chercher à protéger les plus défavorisés et les plus faibles. Ça, c'est le rôle d'une société. Mais alors, on met la limite à tel ou tel niveau. Mais il y a bien un moment donné où nous tous, collectivement, on va devoir faire des efforts qui sont autant de réduire, effectivement, le radiateur dans son appartement, que de se déplacer moins vite ou moins longtemps. Enfin, il y a tout un tas de petites choses, d'ailleurs, globalement, qui doivent être faites, mais il faut que ça soit nous qui fassions. Donc on va vivre peut-être, enfin je vais être un peu cru, on va vivre quelque part un tout petit peu moins bien, ou même un peu moins bien, parce qu'il va falloir faire des efforts, mais il faut absolument sortir de ça, c'est dramatique. Et au passage, les autres pays européens sont quand même beaucoup plus matures que nous sur ce sujet-là. La hausse des prix, elle est plus forte en Allemagne, la couverture sur
l'essence, etc. Donc concrètement, chez nos voisins européens, on fait assumer davantage aux ménages la charge de ce transfert de richesse objectif, oui, qui est l'augmentation des prix de l'énergie vers les pays producteurs.
On prend les enfants, les Français pour des enfants, et puis bah, c'est agréable, donc on reste là-dedans et on ne bouge pas du tout. Donc c'est, dans le principe même, c'est très dangereux.
Gilles Raveau.
La grande difficulté, je vais dire une banalité, mais je pense qu'il faut rappeler, c'est que l'énergie est à la base absolument de tout. À la base absolument de tout. C'est-à-dire que, évidemment, l'énergie, c'est les coûts de transport, c'est les coûts de chauffage, mais aussi, dans vos légumes, il y a de l'énergie. Dans vos habits, il y a de l'énergie. Dans absolument tout ce que vous achetez, il y a de l'énergie. Donc quand les coûts de l'énergie augmentent, absolument tout augmente. Je suis d'accord sur le fait que la prise en charge collective aujourd'hui est sans doute trop forte. Le fait, par exemple, de nous permettre à nous, qui sommes autour de la table, qui vivons bien, de payer l'essence moins chère, c'est évidemment absurde d'un point de vue économique et, on pourrait dire, en termes de justice sociale. Cela dit, il faut voir que les coûts de l'énergie, il est déjà bien subi par différentes personnes. Par exemple, si vous prenez les zones à faible émission qui existent dans différentes métropoles, il y a des gens, notamment des artisans, qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules récents et qui continuent à circuler avec des véhicules anciens parce que sinon, leur activité n'est pas profitable. Et donc, pareil pour le coût de la voiture électrique qui est absolument colossal, et là aussi il y a une énorme question. Je pense que c'est pas un choix absolument génial, cette idée de la généralisation de la voiture électrique. Bon, on a bien compris qu'on était lancé là-dessus et que c'était irréversible. C'est extrêmement coûteux. Vous parliez des
rien n'est irréversible.
Vous parliez. Sauf à renoncer à la voiture individuelle, mais là je pense pas.
Mais non, mais là il y a l'hydrogène, hein, typiquement. Bon.
Vous parliez des transports, Emmanuel, c'est très juste. Par exemple, il faut savoir que l'âge moyen des rails en France est le plus élevé d'Europe. Donc là, c'est pareil, on nous dit, le train, effectivement, il faut développer le train pour les économies d'énergie. Mais là aussi, il faudrait remplacer une quantité phénoménale de rails en France. Là aussi, c'est extrêmement coûteux. Donc en fait, que quelle que soit la façon dont on prend le problème, que ce soit faire des économies d'énergie ou accepter le prix de l'énergie, il y a une hausse du coût qui est effectivement colossale. Et juste pour terminer, je pense que c'est quand même difficile, je pense qu'il y a une contradiction majeure que de plus en plus de gens voient et dont il est quand même très difficile de sortir, c'est que d'un côté, comment on peut avoir des publicités à longueur de journée sur certaines antennes, pas ici évidemment, nous appelons à acheter toujours une nouvelle voiture, etc. Et l'autre côté, on nous dit il faut baisser la température chez vous. Je pense que tout le monde voit bien que là, il y a une contradiction absolument majeure, qui est la contradiction du monde développé. Et je pense que personne n'a de réponse évidente, mais il faudrait au moins quand même la poser à un moment.
François Eckhall, quels outils de politique publique on peut utiliser pour essayer de finalement de faire vivre ensemble un peu toutes ces contradictions, c'est-à-dire éviter un choc effectivement trop violent pour les plus fragiles, ne pas compromettre les finances publiques, envoyer les meilleures incitations pour avoir des comportements vertueux. C'est quoi les outils à notre disposition ?
C'est ceux qui sont utilisés, hein, du point de vue qui coûtent cher du point de vue des finances publiques. Mais je dirais, c'est comme pour ce qui s'est passé avec la crise de quoi qu'il en coûte en 2020-2021. J'ai toujours dit qu'à partir du moment où il s'agissait de mesures ponctuelles, on peut très bien accepter un déficit public, une dette publique, à condition voilà, que ce ne soit pas des mesures durables. Et donc là, je peux comprendre, enfin je comprends d'ailleurs, hein, qu'en France, on prenne des mesures visant à atténuer les effets de ce choc sur les ménages. Ça peut avoir une justification macroéconomique qui est que ce qu'on craint un peu partout, c'est qui est l'enclenchement de ce que les économistes vont appeler la boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les hausses de prix entraînent des hausses de salaire qui entraînent des hausses de prix, etc. Et le fait qu'en France, par exemple,
on est à peine au stade des hausses de salaire.
Voilà. Mais ça commence quand même.
Oui, mais c'est pas, non, c'est pas, on n'est pas dans le.
Mais le fait justement qu'en France on ait le taux d'inflation le plus faible grâce entre guillemets à toutes ces mesures budgétaires, etc. Bah ça limite, en tout cas, enfin ça, je comprends que ça peut permettre de limiter les effets sur les salaires puisque on a moins besoin d'augmenter les salaires puisque c'est compensé, le choc est en partie compensé par l'État. Le problème, c'est que tout ceci, ça serait très bien si c'était temporaire. Mais personne ne peut dire que ce choc va rester temporaire, on sait rien. Et donc le problème il va se poser, c'est comment on va sortir de tout ça. Bon, donc ça c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que je suis d'accord pour dire qu'il faut compenser les effets des hausses de prix dans tous les domaines sur les ménages modestes, mais c'est pas la peine de le faire pour tout le monde. Or il y a des mesures, typiquement dans les mesures qui sont sur la table, des mesures de type baisse de TVA, prime à la pompe, etc. Ça profite à tout le monde. C'est une formidable, on oublie aussi souvent de le dire, c'est si tous les pays consommateurs d'énergie si dans tous ces pays l'État prenait en charge le prix de l'énergie, c'est une formidable incitation pour les pays producteurs à augmenter leur prix. Si on dit à Poutine, écoutez, vous augmentez le prix du gaz, les États consommateurs prendront à leur charge la hausse du prix du gaz. Je continue à augmenter le prix du gaz. Il n'y a aucune limite. Donc c'est absurde. Donc moi, je suis beaucoup plus favorable à des mesures, en fait, ciblées, plus compliquées, mais ciblées, du type de la prime inflation, qui était réservée à des ménages en dessous d'un certain niveau de revenus, ou de ce qui est là est annoncé, qui est une prime carburant, qui est réservée à des ménages sous un certain niveau de revenus et sous d'autres conditions, comme le fait d'habiter dans une zone rurale, de ne pas avoir d'alternative. Et ça, alors forcément, c'est compliqué. Si ça dure longtemps, c'est embêtant.
J'ai quand même toujours une petite pensée pour le pauvre ménage qui est juste au-dessus.
Et là, vous avez quand même
toute une classe moyenne qui.
Moi, si je peux me permettre là-dessus, il y a pour moi des mesures effectivement qui sont temporaire, le temporaire pouvant durer quelques mois ou quelques années, puis après il y a une mesure de fond, c'est qu'il faut se retrousser les manches, il faut travailler plus et plus longtemps pour produire plus, c'est quand même ça aussi la base, voilà, donc ça vaut le coup de le rappeler quand on a les discussions qu'il y a à l'heure actuelle sur le fait qu'il y a une pénurie de main d'œuvre et qu'on a un nombre de chômeurs extrêmement important, les discussions sur les retraites qui sont primordiales, c'est aussi ça qu'il faut voir dans le long terme. Et après, juste pour finir sur les histoires de voitures, rappelons-nous 74, on a tous dépassé la trentaine je pense autour de cette table, les gens ne circulaient pas. Il n'y avait pas 900 km de bouchons comme il y a eu encore à la Pentecôte sur le sujet. Donc il va bien falloir, à un moment donné, faire des efforts.